Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Bonsoir à chacun. Et je vous propose que nous fassions deux lectures. Une première, un premier texte, si vous voulez bien suivre avec moi, dans la lettre de l'apôtre Jacques, Jacques, chapitre 4 et au verset 14. Voilà, il s'agit d'une parole, d'une pensée qui devrait être, eh bien, qui nous est propre à chacun, les uns les autres, pour une bonne raison, c'est que nous ne savons absolument rien de ce qui va se passer demain. Voilà. Alors, on va découvrir cela ensemble, et puis après je vais le commenter avec un autre passage de la Bible, avec un psaume. Alors, je rappelle, Jacques, chapitre 4, verset 14, et voilà ce que nous avons sous les yeux. « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci et nous ferons cela. » Alors voilà, donc c'est une pensée tout à fait pertinente, parce que elle nous remet tout simplement devant l'évidence de l'éphémérité de notre existence. Alors, il est bien certain qu'on ne pense pas à ça à chaque instant, à chaque minute, parce qu'on ne vivrait plus. Mais une chose qui est certaine, c'est que parfois, eh bien, dans l'existence, dans la vie, il est bon que nous marquions le pas et que nous réfléchissions, finalement, eh bien, à ce qu'a été notre passé, ce qu'est notre présent et notre devenir, c'est-à-dire, eh bien, les jours qui vont suivre. Et l'apôtre Jacques savait certainement ce que pouvait représenter la pensée des hommes, quelquefois la témérité des engagements ou des aventures, toutes sortes de choses dans ce domaine où il n'y a que des hypothèses en ce qui concerne demain, dans un mois, dans un an, dans 10 ans, dans 20 ans. Alors c'est vrai qu'il y a au fond du cœur de l'humanité quelque chose de chevillé, c'est que nous pensons toujours et nous espérons toujours, eh bien, que les temps de demain seront meilleurs qu'aujourd'hui. Alors, ça peut être naturellement quelque chose qui fait vivre. Alors les hommes, naturellement, mettent en renfort de tout cela, eh bien, certaines paroles philosophiques, certaines croyances, certaines superstitions également, se disant, bien voilà, c'est ainsi, c'est comme cela, et je veux absolument m'accrocher et croire à la possibilité du bonheur, croire à la possibilité de réussite, de succès. Et c'est ce qui, justement, eh bien, ressort de, et je le relis, et l'apôtre dit ceci, eh bien, vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Et c'est vrai. Alors, on peut avoir fait des programmes, on peut avoir établi toutes sortes de plans. Peut-être pour l'immédiat, alors que nous sommes à la saison estivale, on se dit, voilà, j'ai déjà réservé mes vacances. Bon, c'est de la prévoyance, ce n'est pas mal en soi. Et puis, toutes sortes de choses. Nous échafaudons, eh bien, en effet, là, tout un programme. Mais il est dit tout de suite après, puisque vous ne savez pas ce qui arrivera demain, et nous sommes interpellés sur la fragilité de notre vie. Parce que finalement, notre vie, il semblerait qu'elle nous appartienne, mais elle ne nous appartient pas. Et si nous voulons le vérifier, eh bien, c'est tous les jours que nous pouvons le constater. Alors il y a naturellement tous ces phénomènes qui sont quelquefois interpellants, la maladie qui aboutit à la disparition des hommes. Et puis il y a tous ces phénomènes également imprévisibles, tels que l'accident, tels que les catastrophes, des fléaux, enfin, voilà. Et c'est vrai que parfois, lorsque nous regardons les informations ou que nous sommes en prise directe avec des événements dramatiques dans notre monde ou dans notre société, on se dit, voilà, heureusement que ça se passe pas ici, ou que ça se passe pas chez moi, ou que ça se passe pas pour moi. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce que votre vie ? Et le point est souligné tout simplement par ce que j'ai appelé tout à l'heure la brièveté de la vie, son éphémérité. Et il y a une métaphore que Jacques propose, il dira « mais vous êtes comme une vapeur ». Alors vous savez ce que c'est que la vapeur. Elle apparaît, quelquefois elle est violente, mais elle disparaît aussitôt. C'est-à-dire que c'est tout simplement de l'eau condensée, chaude, et au contact de l'air, il ne reste plus rien, sinon rien de visible en tous les cas. Et cela paraît pour un peu de temps et ensuite ça disparaît. C'est la vie. Alors on pourrait penser que quand on vit depuis, quand on a fait un parcours 50 ans, 60 ans, 70 ans, 90 ans par exemple, on se dit mais c'est vrai que ça représente. Mais qu'est-ce que la vie d'un homme ou d'une femme à côté de cette notion que la Bible met devant nous qu'est l'éternité? Alors ça pourrait nous sembler quelque chose de très éloigné si je vous parle du siècle des Lumières, 18e siècle. Ou si je vous parle du Moyen-Âge, alors là, à ce moment-là, on est plongé dans un monde tellement reculé, alors la préhistoire ou l'Antiquité. Mais tout ça, ce n'est qu'une vapeur. Vous savez que dans l'Écriture sainte, il est écrit qu'un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est un jour. Alors c'est vrai que pour nous qui sommes limités avec notre compréhension, parce que nous sommes des êtres finis, et nous sommes calés dans le temps entre une naissance et puis une disparition, alors tout cela, ça, c'est vrai que c'est assez impressionnant, et c'est le cœur de la réflexion. Et s'il y a un conseil qui peut être donné autour de cette délibération, Jacques dira, mais vous devriez dire au contraire. Et là, il met finalement dans notre réflexion l'essentiel, le principal, celui qui détient notre souffle, notre vie, et il parlera de Dieu. Et il ajoute, mais si Dieu le veut. Ah ! Et ça, je pense que dans l'interprétation et dans l'analyse ou dans le comptage de nos jours, de notre vie, courte ou longue, il y en a un qui est oublié. On pourrait dire que c'est le grand oublié du monde, de l'humanité, c'est Dieu. Parce que, précisément, la Bible nous dit que c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a mis le souffle à l'intérieur de nous-mêmes. Et il y a même dans le livre de l'Ecclésiaste, une image, une parabole, si vous voulez, où il nous est dit que Dieu, coupe ou enlève l'esprit de l'homme. Alors à ce moment-là, il disparaît, tout simplement. Il est le Créateur et nous sommes sa créature. Parce que nous ne sommes pas seulement des êtres faits de chair, de sang, des êtres à composition matérielle, avec ce qui fait que nous sommes des êtres humains, avec toutes les prérogatives qui s'attachent à cette création supérieure qu'est l'humanité, l'intelligence, la pensée, la faculté de tellement de possibilités que Dieu nous a données puisque nous sommes à son image. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous oublions que c'est lui qui détient le souffle, notre souffle. Si vous regardez dans le message du livre de la Genèse, il nous est dit que à la création de l'homme, il nous est dit que Dieu souffla un souffle de vie. Il souffla un souffle et il devient une âme vivante. Et cela dans une perspective et une destinée à travers finalement un programme créateur où l'homme est enfermé dans le temps et promis à l'éternité. Alors j'espère que je ne suis pas trop compliqué parce que j'ai expliqué ça tout à l'heure beaucoup plus simplement. Alors, si Dieu le veut, nous vivrons. Ouais, nous vivrons. Et aujourd'hui, je pense que le minimum de reconnaissance que les hommes puissent avoir à l'égard de Dieu, c'est de dire « Merci pour la vie que tu m'as donnée. Alors tout le monde ne partage pas cette pensée parce que certains vous dira, bah oui, certains vous diront, eh bien oui, c'est terrible la vie. Hein, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai raté ceci, j'ai raté cela, et ma vie n'a été que finalement un déroulement de péripéties et de misères. D'autres, peut-être plus heureux, qui, eh bien, ont vécu différentes choses, mais dans le bon terme, diront Dieu n'existe pas, je me suis débrouillé par moi-même, et le bonheur, et mon bonheur, c'est moi qui, mon bien-être, mon confort, eh bien, c'est moi qui me le suis procuré. Alors, on comprend que le monde est partagé sur la question. Et il est bien dit, mais si Dieu le veut, donc il y a une volonté suprême par rapport à notre volonté, au-dessus de la nôtre, eh bien, nous vivrons. Et parce que nous vivons, nous pourrons faire ceci ou nous pourrons faire cela, parce que quelqu'un qui est mort ne peut rien faire. Il y a l'absence complète, finalement, d'existence et de vie. Alors, ceci dit, j'aimerais que nous tournions les pages, excusez-moi, dans notre Bible, nous allons voir le psaume 90. Et là, je vais essayer d'éclairer un petit peu notre réflexion dans sa compréhension et voir comment nous pouvons, eh bien, aborder et peut-être donner quelques éléments de réponse, de réflexion qui peuvent nous amener à prendre en considération que ce que nous sommes, eh bien, c'est encore une grâce de Dieu et de ne pas l'oublier, de l'en remercier, d'être reconnaissant, en sachant également que si Dieu nous interpelle, c'est qu'il a un programme pour chacun, pour chacune, et il voudrait nous voir heureux dans ce qu'il a préparé pour chacun d'entre nous. Mais la réponse, elle ne vient pas de lui. La proposition vient de lui, la réponse, elle vient de nous. Je veux ou je ne veux pas. J'accepte ou je n'accepte pas. Je crois en Dieu ou je n'y crois pas. Alors en raison de cela, eh bien notre vie va être orientée dans un sens ou dans un autre. Alors voilà ce qu'il nous est dit. Le psaume 90, on va le lire. C'est une prière d'un homme qui est un des plus grands parmi les hommes de foi de la Bible. Il s'appelle Moïse. C'est le seul psaume qu'il a écrit. Et vous savez que quand il a écrit ce psaume, il devait arriver certainement au terme de son existence. Quand Moïse est mort, il avait 120 ans. Il avait concurrencé une certaine Française il y a une dizaine d'années qui avait vécu 100 et quelques années. Vous connaissez hein, cette histoire. Donc, Moïse, et il nous est dit que c'est un homme de Dieu, donc un homme qui croit en Dieu, qui sait que son créateur, c'est Dieu. Alors il priera de cette manière, puisque c'est une prière. « Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes soient nées, et que tu aies créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière, et tu dis, fils de l'homme, retournez. » Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin, elle passe, on la coupe le soir, et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que poussière et peine, ou peine et misère. Car ils passent vite, et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Et voilà le cœur de la prière de Moïse. Écoutez bien. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusque à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur, que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur tous leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Voilà. Moïse campe le décor dans cette réflexion, parce que je voudrais vous dire qu'il a vécu très longtemps. Il a été un conducteur de peuple, il a été le prince d'Israël. C'est lui qui a été choisi par Dieu pour faire sortir les Hébreux de leur misère et de leur captivité, de leur servitude lorsqu'ils étaient en Égypte. Et nous voyons que, je l'ai dit il y a un instant, il a vécu 120 ans. Là, ce psaume a dû certainement être écrit dans la troisième période de sa vie, c'est-à-dire entre 80 ans et 120 ans, et là, il pouvait faire le bilan de son existence et le bilan de toutes les existences qui étaient autour de lui. Imaginez-vous que Moïse a fait sortir plus de 2 millions de personnes, femmes, enfants, vieillards, hommes, de cette misère de l'Égypte. Plus de 2 millions de personnes. Et pendant ces pérégrinations dans le désert qui ont duré des années et des années, je pense que Moïse, à la source même de ses responsabilités, a vu, probablement, des centaines et des milliers de personnes mourir dans le désert, de mort naturelle, parce que l'âge avait atteint les plus âgés. Il a dû certainement voir mourir, eh bien, probablement des enfants, par accident ou par maladie. Et je crois que ça lui inspirait, ce qu'il nous laisse comme parole ce soir, pour nous dire que la vie, c'est un souffle. On peut avoir vécu. On peut ne pas avoir vécu lorsque on est fauché dans l'enfance, dans la jeunesse. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est troublant. On se dit, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que normalement, dans la marche normale de la vie des hommes, bah, les plus âgés partent et ils laissent la place aux plus jeunes. Et combien de femmes, combien d'hommes a-t-il vu disparaître comme ça? Et ça lui a suscité cette réflexion sur ce que pouvait être la fragilité de notre existence. Moi, je voudrais pas vous porter à des pensées moroses ou vous amener à déprimer, mais c'est pourtant une réalité. On n'y pense pas parce que ça ne nous touche pas forcément de près. Mais si l'on considère le monde qui vit et qui palpite autour de nous comme un monde qui ressemblerait à une fourmilière, ici et ailleurs, dans le monde entier, on se dit, mais quel va-et-vient? Il y en a des milliers qui arrivent, il y en a des milliers qui partent, et on s'aperçoit que tout ça, c'est un peu comme, vous savez, c'est comme les marées sur l'océan, hein. Marée montante, marée basse. Et ça se multiplie de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus d'humains sur la Terre. On est proche des 7 milliards. Imaginez-vous ce que ça peut représenter. Ça nous représente pas grand-chose parce qu'on ne peut pas s'imaginer ce que ça peut être. Avec bien des riches et des pauvres. Avec des gens qui mangent à satiété, des gens qui ne mangent pas. À travers des gens qui ne souffrent pas et puis des gens qui souffrent. Des gens qui s'accrochent désespérément à une chose hypothétique qui n'arrivera jamais. Des gens qui ont des capacités et d'autres qui n'en ont pas. Alors on pourrait multiplier les comparaisons comme ça. Et pourtant Moïse dira ceci, « Seigneur, tu as été pour nous un refuge. » Et vous savez pourquoi Moïse dit cela? C'est parce que il remercie Dieu pour lui et pour le peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël, c'est un peuple qui a la foi en Dieu. Et parce que un homme, une femme, un peuple, une nation, vous et moi, nous croyons en Dieu, alors à ce moment-là, nous ne sommes pas seuls au monde. Notre vie n'est pas un accident dans un univers d'accidents qui se serait entrechoqué et qui aurait produit ce que nous sommes. Notre vie n'est pas là livrée à d'hypothétiques caprices ou à je ne sais quelle orientation qui... Non. Dieu est un refuge pour celui qui espère en sa grâce et qui croit que Dieu n'est non seulement le Créateur, mais que Dieu est le Sauveur et que Dieu est là auprès de nous pour nous amener à trouver le bonheur, la vie, la vraie vie, celle qui mérite eh bien d'être appelée ainsi et pour nous amener à rentrer après cette expérience, ce laps de temps qu'on appelle la vie terrestre, dans une autre dimension qui va nous faire sortir du temps pour nous faire rentrer dans l'éternité. Dieu est le Dieu de l'éternité. Dieu est éternel. Alors tu as été pour nous un refuge, de génération en génération. Tu n'abandonnes pas ceux qui mettent leur confiance en toi. Et voilà que les choses sont dites avant que les montagnes soient, et que tu aies créé la terre et le monde d'éternité. Tu es Dieu. C'est ce que nous disions il y a un instant. Et pourtant, puisque les choses sont ainsi, non pas par ton vouloir, mais par une détermination humaine, d'avoir rompu la communion avec toi, d'avoir cessé de te faire confiance et de t'aimer, toi, le Dieu qui aime sa créature, alors il est dit ceci, tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Non pas que Dieu ait voulu que la mort frappe le monde. Mais quand nous lisons le livre de la Genèse au chapitre 3, il nous est dit que c'est l'homme qui s'est séparé de sa racine de vie, en désobéissant, à main levée en quelque sorte, à dire, eh bien nous ne voulons pas que Dieu soit Dieu. C'est l'histoire d'Adam et Ève en quelque sorte. Et par un phénomène inéluctable que les hommes n'ont jamais trouvé de solution, parce qu'on n'a jamais trouvé de solution pour parer à la mort, eh bien les hommes naissent et les hommes meurent. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Moi je le dis à chaque fois, Dieu ne voulait pas et ne veut pas que les hommes meurent. Mais c'est l'homme qui a choisi de mourir. En se déconnectant de ce qui était pour lui la seule véritable vie, c'est-à-dire la vie éternelle, la vie en Dieu. Alors, tu les fais rentrer dans la poussière et tu dis à l'homme, retournez. Parce que comment pouvons-nous mesurer les choses ? Si nous évaluons à la mesure que Dieu voit et juge les choses, 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. Vous vous rendez compte, le jour d'hier, vous vous souvenez ce que vous avez fait hier matin ? Ce que vous avez fait hier midi ? Hier après-midi ? Hier soir ? Je ne vais pas vous demander de me raconter votre histoire. Mais je veux dire que... Oui, qu'est-ce que j'ai fait exactement ? Si j'y pense, je m'en souvenir. Si je vous demande, qu'est-ce que vous avez fait le 27 janvier 2012. Ah ! Et pour ceux qui sont les plus âgés, qu'est-ce que vous avez fait ? Pour ceux qui ont vécu en 1962. Là, c'est difficile, hein ? C'est vaporeux, hein ? Oui, ça s'envole. Déjà, on a du mal à s'apercevoir de ce que c'était le jour d'hier. Et pour Dieu, c'est 1000 ans. Comme la veille de la nuit. Seigneur, qu'est-ce que je me sens petit devant tout cela. Moi, petite fourmi, dans une fourmilière immense qu'est notre terre, et cette terre qui est perdue dans le firmament, dans cet univers dont la Bible nous dit que on ne peut compter les étoiles du ciel comme le sable de la mer. Qu'est-ce que je suis ? Et pourtant, je suis une créature. Et pourtant, je vis. Et pourtant, Dieu m'a donné l'existence. Et pourtant, il veut me sauver. Il veut me donner l'éternité, une éternité de gloire, une éternité de bonheur, où le mal n'existera plus, où le mensonge n'existera plus, où les ténèbres n'existera plus, où la guerre n'existera plus, où la souffrance n'existera plus. C'est ça ce que Dieu a prévu. Alors tu les emportes, semblables à un songe. Vous vous souvenez si vous avez rêvé cette nuit ou pas ? Un rêve, un songe, on s'en souvient pas souvent. Hein ? Qui le matin passe comme l'herbe. Il était question d'un souffle tout à l'heure dans... le livre de Jacques, et maintenant il est question de l'herbe, qui fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir, elle sèche. Et nous sommes consumés, oui, nous sommes emportés par ce que nous croyons être la fureur, ta fureur, et cela nous épouvante, parce que l'homme, depuis qu'il s'est séparé de Dieu, il se cache, comme Adam s'est caché dans le jardin d'Éden. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu est vu maintenant par l'homme, comme un Dieu qui juge, un Dieu qui condamne, un Dieu qui punit. Or, c'est complètement faux. Les hommes ont peur de Dieu. Mais ils ont peur. Alors que tout le message de l'Évangile nous dit « Venez à moi ». Et puis, ne craignez rien. Venez, approchez-vous. Je voudrais sauver votre vie. Je voudrais vous amener à maintenant vivre une vie nouvelle. Mais le premier réflexe de l'homme à cause de son péché et du mal, c'est de voir Dieu, un Dieu qui condamne, un Dieu comme souvent les hommes populairement l'ont appelé le Père Fouettard en quelque sorte. Tu mets devant toi nos iniquités, à la lumière de ta face nos fautes cachées. Parce que l'homme a besoin de prendre conscience que ce n'est pas Dieu qui est coupable, mais c'est nous qui sommes coupables. Et qu'il n'y a qu'une seule façon de pouvoir revenir à lui, c'est de nous repentir, de dire « Mais Seigneur, je te demande pardon. J'ai agi dans l'ignorance, j'ai agi dans ma folie, j'ai agi dans mes passions, mais je te demande pardon parce que je sais que tu es capable de me pardonner. Tu es capable, véritablement, de me blanchir, de me donner véritablement cet affranchissement complet et total. Alors, à un moment ou un autre, pour nous approcher de Dieu, il faut faire la paix avec lui. Et le seul moyen de faire la paix avec Dieu, c'est tout simplement de nous approcher de lui et de lui demander pardon. Il y a quelqu'un qui a plaidé pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Ce quelqu'un, il s'appelle Jésus-Christ. Quand il est monté à la croix, la première parole des 7 paroles de la croix, ça a été « pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font ». Et on est au bénéfice de ce pardon de Jésus-Christ, si nous voulons le croire. Dieu nous pardonne tous nos péchés. Il est capable d'effacer toutes nos erreurs, nos fautes, nos péchés, notre vie tourmentée et agitée, tout ce que nous avons pu faire. Même quelquefois qu'il nous semble impossible à être pardonné. Le pire du pire, Dieu est capable de nous le pardonner, si vraiment nous venons avec sincérité. Alors, tous nos jours disparaissent par ton courroux, et nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. Aujourd'hui, on a dépassé encore ce stade. Quand on voit certains et certaines qui dépassent allègrement les 90 ans, 95 ans, 100 ans. Nous avions dans le département, là, jusqu'à il y a à peu près un mois, une personne avait 112 ans, je crois. Hein. Oui, c'est pas mal, 112 ans. Hein. 112 ans, d'accord, mais bon pied, bon oeil, hein, parce qu'autrement, c'est plus la peine. Ouais. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que misère et peine. Vanité, peine et misère. Pourquoi vivre? Voilà la question. Pour jouir le plus possible? Pour manger le plus possible? Pour boire le plus possible? Pour avoir le plus d'argent possible? Est-ce que tout cela, ça fait véritablement le bonheur? Ce sont des choses qui doivent rester à leur place, des moyens pour vivre et non pas des buts de vie. Et c'est pour cela que le monde est malheureux. C'est pour cela que les pauvres comme les plus riches sont des êtres qui sont malheureux parce que finalement, il y en a qui manquent de tout et d'autres qui ont tout en abondance et dans le manque épouvantable ou dans la richesse la plus totale, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose dans le cœur des uns et des autres, c'est-à-dire c'est le vide. On peut tout avoir être profondément malheureux. D'ailleurs, notre société aujourd'hui, dite de consommation, n'a jamais vu autant de désespoir, autant de drogués, autant d'alcooliques et autant de suicides. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Oui, je le dis, je le répète, quand nous avons 20 ans, on se dit qu'est-ce que la vie est longue. Parce que déjà, on voit une personne de 50 à 60 ans, on lui dit « Oh là là, qu'est-ce qu'il est vieux !» Maintenant, je ne peux plus le dire. Mais je m'aperçois d'une chose, c'est que finalement, pour vous comme pour moi, il y a 40 ans, quand j'avais 20 ans, ça me semblait hier. Et pourtant, ça passait vite. Alors, retenez ça, hein, les jeunes qui êtes voilà, au milieu de nous ce soir. Vous allez voir. Pfiou, nous sommes emportés, comme une vapeur, comme une fleur, tout simplement. Et pourtant, à l'intérieur, je crois qu'il y a toujours cette même vitalité, cette même jeunesse. Cette fraîcheur, oh oui, le corps peut-être, lui, il s'amortit un peu, mais c'est pourtant une réalité, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Dieu doit être respecté. Et s'il y en a un qui est complètement oublié, méprisé, et avec Dieu, son autorité, et avec l'autorité de Dieu, toutes les autorités déléguées, telles que les pouvoirs politiques, ou professorales, ou pastorales, ou tout ce que vous voudrez, aujourd'hui l'autorité, elle ne tient plus. Les hommes font n'importe quoi. Et c'est grave parce que ça s'appelle tout simplement, eh bien, une forme de rébellion. Parce que le monde, il tient à cause de quoi? Quand les hommes tiennent leur place. Parce qu'à partir du moment où le monde est livré à lui-même et on le voit en temps de guerre, on s'aperçoit que les hommes se livrent à n'importe quelle folie, à n'importe quelle cruauté, à n'importe quelle abomination. Il suffit de regarder dans le XXe siècle tout ce qui s'est passé. Lorsque véritablement il n'y a plus d'autorité, ou sous le couvert d'une autorité qui promet finalement de nettoyer la société, eh bien, ça donne les pouvoirs fascistes. Tout simplement, ou les pouvoirs extrêmes dans un sens ou dans un autre. Et c'est terrible. Et voilà la prière de Moïse. Elle est celle-ci, et il se tourne vers Dieu, après avoir reconnu que Dieu est un refuge, que Dieu est une protection, que Dieu est sauveur. Alors il dira ceci, et je crois que c'est peut-être la prière que nous avons besoin de faire monter tous les jours au Seigneur. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Seigneur, mes jours sont courts sur la terre. Ils seront peut-être de ceci. Si tu me prêtes vie, ils seront peut-être un peu plus longs. Si véritablement la santé m'accompagne dans mon être physique comme dans mon être moral, c'est-à-dire cérébral, vous comprenez? Parce que si on est malade physiquement ou si on est malade dans notre tête et que là on devient tout simplement sénile, c'est quelque chose de terrible. Alors, si tu me prêtes vie, Seigneur, moi je voudrais te demander que chaque jour que tu me donnes, chaque semaine, chaque mois et chaque année, n'allons pas chercher plus loin, mais j'aurai besoin, Seigneur, parce que je reconnais que tu es mon Créateur. Je reconnais que la sagesse, elle est en toi. Alors, Seigneur, enseigne-moi à bien compter mes jours. C'est pas de faire une croix sur un calendrier de l'année. C'est pas ça? Parce que je pense que vous n'êtes pas pressé de griller tous les jours pour dire « Hey, il m'en reste de moins en moins !» Parce que si vous vivez en cela, c'est une véritable angoisse. Hein. Parce que l'homme n'est pas fait pour penser à la mort. Bien que, quelquefois, nous devrions penser un peu plus pour nous y préparer. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, nous dit le prophète Amos. Tout simplement. Alors enseigne à nous bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ah, la sagesse, la folie. Le but de cette prière, c'est pour que l'homme soit sage et qu'il ne soit pas fou. Que l'homme soit prudent, qu'il ne soit pas insensé, parce que la vie que Dieu, le capital vie que Dieu nous a donné, vaut plus que l'or. Il vaut plus que tout, le souffle que Dieu nous a donné. Mais c'est une véritable richesse, c'est un trésor, que nous n'avons pas le droit de dilapider en disant, eh bien, tout ça, ça ne vaut rien. La sagesse, c'est ça ce qui nous est nécessaire. Parce qu'avec la sagesse, on prospère, avec la folie, on se détruit. Est-ce que nous aurions besoin de voir des exemples? Ben regardez autour de vous. Quand on voit comment le monde fou se comporte dans tous les excès, à travers les passions, à travers la musique, enfin pas n'importe laquelle, hein, à travers la vitesse, à travers des prouesses et des aventures pour conquérir l'impossible ou l'inaccessible, dans toutes sortes de choses excessives, je parle, hein. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont bonnes. Mais quand on les pousse au maximum, quand on les pousse à l'excès, eh bien, on a les résultats que l'on a. C'est-à-dire que il y a des gens qui partent prématurément. Il y a la folie à tous les niveaux. Le sage, selon le monde, peut être un fou. À travers ses découvertes scientifiques. Vous savez, quand on a trouvé le principe du nucléaire, et qu'on en a fait une bombe atomique. Ça subsiste depuis 70 ans, c'est au-dessus de notre tête. Et quand on voit que le problème et le débat est encore pour nous aujourd'hui, on se dit, voilà, quelques pays sages peut-être possèdent. Mais quand vous avez des pays où il y a des fous, excusez-moi, et qui veulent détruire à tout prix leur adversaire ou leur voisin, on se dit, mais pourvu que ça ne leur tombe pas dans les mains, hein, et dans toutes sortes de choses. Nous vivons actuellement dans une crise économique et financière, parce qu'il y a des hommes qui pensaient ou qui se donnaient d'être sages en utilisant l'argent d'épargnants ou des populations des pays pour nous amener, comme nous en sommes aujourd'hui, quasiment à la banqueroute. C'était des gens qui étaient intelligents pour gérer, finalement, et trafiquer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de pauvres. Ça, c'est de la folie. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Vous pouvez le deviner vous-même. Il y a un homme qui s'appelle David, et il avait fait une grosse bêtise dans sa vie. Oui. Vous connaissez l'histoire de Bathsheba. Mais ça ne s'était pas arrêté là. Il était roi, David. Et il était tombé dans ce piège, parce que c'était qu'un homme. Et là, il avait manqué de sagesse. Et puis il avait menti à tout le monde, en faisant croire que c'était pas vrai. Et puis il avait fait tuer le mari de la femme qu'il avait pris. Et il avait maquillé tout cela pendant à peu près des mois et des mois et tout ça. Et à un moment donné, il y a eu un réveil chez David. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je suis fou? Je suis l'homme que Dieu a placé comme roi à la tête de son peuple Israël. Moi qui aime Dieu, moi qui ai la foi en Dieu, je suis tombé dans une situation, un véritable marécage, dans un labyrinthe. Et il écrira ce beau psaume qui s'appelle le psaume 51. Et il dira ceci, parce que c'est resté pendant des siècles et des siècles, hein. Les paroles de beaucoup d'hommes ont disparu, mais les paroles de David, elles sont restées. C'était son expérience à lui. Et il dira à Dieu, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Alors fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Enseigne-nous la sagesse, Seigneur. Quelquefois, c'est effrayant de demander la sagesse quand on compare notre folie. On se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que ça peut être la sagesse devant... Quelquefois, les pensées, les impulsions, les élans, les passions qui peuvent surgir dans mon cœur. Alors Seigneur, fais vite, donne-moi la sagesse. Parce que si je suis livré à moi-même, je vais tomber fou. Alors ça, c'est la sagesse. Puis la folie. Qu'est-ce que la folie? Jésus mettra ça en parabole. Vous savez, le fou qui a construit sa maison sur le sable, et le sable, c'est pas solide, et le sage, qui a construit sa maison sur le roc. Et le roc, ben, ça tient le coup, hein. C'est solide. La folie. Dans le livre des Proverbes, il nous est dit ceci. Le cœur des insensés proclame leur folie. C'est-à-dire que la folie, ça se voit et ça s'écoute. Quand on entend les discours de certains, on se dit, mais ils sont fous de parler comme cela. Et derrière, parfois, eh bien, des déclarations à haut niveau. Et on se dit, mais ils sont fous. Ils sont en train de disséquer, de démolir toute la structure de la société, de tout casser. Et ils passent pour sages. Regardez, le cœur des insensés proclame leur folie. Les mouches mortes, nous dit le livre de l'Ecclésiaste, infectent l'huile du parfumeur, un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Pour nous dire que le mal est toujours en apparence plus fort que le bien. Et nous, parce que nous le savons, eh bien nous avons besoin de dire au Seigneur, enseigne-moi bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Alors Seigneur, reviens éternel, nous t'avions repoussé, mais Seigneur, nous te demandons de revenir vers nous et de nous donner l'intelligence, de nous donner la perspicacité, de nous donner du bon sens. Reviens, mais reviens vite Seigneur, jusque à quand nous fera-tu attendre? Et ça c'est une prière qui demande à Dieu, finalement, eh bien que Dieu revienne. Et si nous le prions comme ça, mais Dieu va revenir. Dieu va venir dans nos cœurs si nous l'invitons. Si nous prenons toute la mesure, finalement, de notre misère, de notre perdition, et que sans lui, eh bien nous ne pouvons pas vivre. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, je termine, et nous serons toute notre vie dans la joie et dans l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Mais le malheur que nous avons vu et l'humiliation que nous avons vue, elle ne vient pas de toi, c'est nous qui nous sommes humiliés par notre folie. Et nous sommes allés finalement dans des sentiers, dans des chemins, sur des routes qui nous ont conduits à des choses qui aujourd'hui nous font mal et nous en souffrons et nous crions à toi pour que tu viennes nous délivrer. Vous savez, l'homme est souvent l'artisan de son propre malheur sans le savoir, par conformisme. Parce que la grande majorité du monde fait comme ça, alors on dit, puisque tout le monde fait comme ça, on peut le faire, donc ça doit être bien. Eh bien, ça c'est faux. Ça c'est une aberration. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs, et ta gloire à leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains, Seigneur. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Seigneur, apprends-nous à bien compter nos jours, et donne-nous d'appliquer notre cœur à la sagesse. Que Dieu nous bénisse ce soir. Que Dieu nous donne sa grâce. On est comme une vapeur, comme une fleur qui passe. Alors, combien avons-nous besoin vraiment de faire de notre Dieu, non seulement en le reconnaissant comme Créateur, mais celui qui est capable de pardonner nos péchés si nous le lui confessons, capable de nous sauver, de nous donner une vie nouvelle, et de nous faire passer de cette dimension rétrécie qu'est la vie sur cette terre à la dimension de l'éternité. Celui qui croira en moi, nous dit Jésus, et qui vivra par moi, ne mourra point. Il a la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse. On va prier quelques instants, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que tu as encore mis devant nous ce soir. En effet, eh bien, toute l'importance, parfois, de nous arrêter, Seigneur, dans ce tourbillon de vie, dans cette société qui est enfiévrée, endiablée, pour nous poser, parfois, Seigneur, de réfléchir. En effet, quels sont les véritables buts de notre existence sur la terre? En effet, tu nous réponds à cette parole, à cette question. Si nous disons, comme beaucoup, buvons et mangeons parce que demain nous mourrons, eh bien, c'est véritablement rabaisser l'homme, créature de Dieu, à une position, Seigneur, d'animalité. Mais nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des hommes. Et l'homme a été doté d'une conscience. Et dans cette conscience, la voix de Dieu parle en bien. Elle nous montre aussi le mal. Elle nous donne, Seigneur, de choisir, en effet, la lumière, de préférence aux ténèbres. Elle nous donne de comprendre qu'en effet, Seigneur, il y a cette vie qui peut se prolonger jusque dans l'éternité, ou alors il s'agit d'une mort éternelle, dans l'absence de notre Créateur et de notre Dieu et de notre Sauveur. Et vivre sans Dieu, ce n'est pas la vie, puisque la source n'est plus là. Seigneur, je te demande de passer maintenant dans les rangs, de te révéler dans les consciences des uns et des autres qui ont entendu cette parole, ou de ceux qui l'entendront plus tard, peu importe, de ceux qui lisent ce psaume, en effet, 90. Eh bien, Seigneur, de réfléchir. En effet, si nous vivons d'une manière primaire, ou si nous voulons vraiment, Père éternel, que notre vie ait un sens, et un sens durable, qu'il y ait une pérennité, Seigneur, à ce capital vie que tu as donné à chacun et à chacune, ou de disparaître tout simplement. En effet, Seigneur, nous voulons te... Je te prie, tu passes dans les rangs maintenant. Ta parole a été annoncée. Je te demande de susciter de la foi, Seigneur, pour ceux qui l'ont entendue. Et que ceux qui l'ont entendue puissent croire à cette parole. Non pas, en effet, un sermon ou une parole d'homme, mais comme étant la parole de Dieu. Et je te demande, Seigneur, que par le Saint-Esprit, maintenant, tu convainc de péché, de justice et de jugement. Et que les hommes et les femmes, Seigneur, se tournent vers toi et te choisissent, en effet, comme sauveur et Seigneur de leur vie, et que, au cœur de leur prière, ils puissent te dire, Seigneur, apprends-nous à bien compter nos jours qui nous restent, et donne-nous d'appliquer notre cœur à la sagesse. Merci Jésus, merci Seigneur pour ta présence, et merci pour ta parole vivante. Amen, amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.